Vous avez vu ce film. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui méritent d'être évoquées. Un film plein de sensibilité. Vous avez vu tous ces jeunes qui sont dans une certaine immaturité, on va dire, ou du moins sur leur environnement, et qui peu à peu basculent à l'occasion de la mort d'un de leurs amis, basculent dans un univers qui est celui des adultes. Mais bon, voilà. On aurait voulu avoir le réalisateur avec nous. Ça n'a pas été possible. Il n'aurait pu venir qu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, c'est le festival Premier Plan. Donc on ne pouvait pas programmer en janvier. Donc on a décidé de le passer maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, par exemple, est-ce que pour vous, c'était très clair la situation? Où est-ce que ça se situe? Dans quel cadre? Ça évoque quels événements? Alors, il y a un micro si quelqu'un veut.
Bonsoir. Je voulais juste parler du contexte de ce film, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Le film, ça se passe en Israël, c'est-à-dire ça parle de le 22% des Palestiniens qui sont restés malgré la Nakba, la catastrophe, en 1948. Il y a aujourd'hui 22% de la population palestinienne qui vivent. Et ça, c'est, on parle de la, le film parle de la troisième génération de la Nakba. Et ça donne une image générale sur le quotidien de ces gens-là, où ils apprennent, quel style d'apprentissage ils sont en train d'apprendre. Et là, le film, ça parle évidemment, ce que je trouve intéressant, ça montre quelque part la violence invisible tous les jours qui est pratiquée contre cette population palestinienne qui est déprivée, en fait, de avouer leur identité, leur héritage. Parce que malgré tout, ce sont des Palestiniens qui ont vécu, et comme vous avez vu, c'est tout à fait vrai et c'est très réaliste comme film. Ils apprennent à l'école une histoire, c'est que pas à l'heure, en fait. Et même la langue, sachez-vous que, par exemple, la langue arabe, c'est pas une langue obligatoire à apprendre. Par contre, l'hébreu, c'est obligatoire. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette population palestinienne qui sont les indigènes, quelque part, en fait, du pays, qui sont déprivés, par exemple, d'avoir certains postes ou de choisir ce qu'ils veulent à propos de la fac, et déprivés de certains travail et à la société israélienne et tout ça. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce film, mais personnellement, ça me fait plaisir que ça parle, parce qu'il y a pas mal d'ignorance, même depuis le fameux accord d'Oslo. Tous ces Palestiniens, ils sont quelque part oubliés ou négligés. Et il n'y a pas une solution politique qui inclut ces gens-là, qui quand même, aujourd'hui, comme je disais, 20% de la population. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ça, mais c'est vrai, voilà, c'est ce qu'on a vu, c'est juste une partie de leur quotidien dans le système éducatif israélien. Merci.
Merci, Achraf. Oui, on voit aussi l'impact des emprisonnements dans les familles. L'oncle, hein, qui, après son arrestation, enfin, a été traumatisé avec le décès de son père quand il était en prison, et qui depuis, effectivement, on ne sait pas exactement la signification du fait qu'il brûle du bois, si ce n'est qu'on peut juste interpréter, sans savoir si c'est ça exactement, mais est-ce que c'est son feu intérieur qu'il extériorise ainsi ? Est-ce que c'est l'avenir qu'il lit comme ça, comme étant un enfer à venir, présent et à venir ? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est assez, assez frappant. Et effectivement aussi, on a cette confrontation d'un récit dominant avec l'histoire transmise dans les familles. Voilà. Et qu'est-ce que font les jeunes avec ça ? Comment ils peuvent faire face avec des parents qui sont inquiets pour eux, parce qu'ils savent, effectivement, on l'entend dans le film, si tu vas participer, si tu fais quelque chose qui ne va pas, tu vas être arrêté, tu vas être fiché. Également le fait qu'ils en sont déjà pourtant conscients, puisqu'ils évoquent le fait qu'il faut éteindre les téléphones, on pourrait nous écouter. Il y a une espèce de... On ne sait pas si... Est-ce que c'est vrai, même si dans... On sait aujourd'hui très bien qu'il y a des logiciels qui ont été mis au point pour écouter les téléphones, hein, sur le plan des écoutes téléphoniques en Israël et en Palestine. L'État d'Israël est devenu très très fort là-dessus. Hein. Ils sont à la pointe, puisque tous les pays, y compris les pays occidentaux, les envient beaucoup dans ce domaine, hein, malheureusement. Oui, je ne veux pas monopoliser la parole.
Alors, c'est juste, moi, ce qui m'a marqué, qui est très intéressant, et puis qui résume un peu la vie en Palestine, c'est l'oncle qui brûlait, c'est voilà. Et ça représente l'avenir de ces jeunes. Voilà, s'ils résistent, voilà ce qui peut leur arriver. Et donc, voilà, c'est tout simplement. Et en plus de ça, au niveau religieux, Israël implore la religion, toujours pour prendre les terres palestiniennes. Il y a François Fillon qui a répondu à des questions là, dernièrement. Il a dit au président iranien, vous savez, mais l'histoire dit que il y a 3000 ans, 2 ou 3000 ans, que la Palestine appartient à Israël, quoi. C'était les Israéliens. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, le président iranien ? Il lui a dit, écoutez, ben, nous, notre histoire, elle se trouve en Turquie, il y a 7000 ans, donc on n'a qu'à aller en Turquie, prendre la Turquie, quoi. Voilà, tout simplement.
Oui, vous... C'est Taoufik Tahani, un ancien président, un président d'honneur de la FPS, qui avait répondu dans une interview sur un plateau de télévision à un journaliste ou à quelqu'un d'Israël en visioconférence, qui lui disait que, bah, de toute façon, cette terre, elle était à eux parce qu'elle était inscrite comme ça dans la Bible. Et il avait dit, Taoufik avait dit, mais la Bible, c'est pas un cadastre. Hein, vous vous souvenez de ça ? Voilà. C'est toute l'interprétation de tous ceux qui sont dans le messianisme. Voilà. Et effectivement, si on devait tous retourner à nos origines, ça va être compliqué. Hein. Je crois que...
Oui. On est donc en Israël, hein, dans le nord d'Israël, ce qu'on appelle la Galilée, nous, les Francs. Bon, une zone où il y a la majorité des 20% de Palestiniens qui vivront, la grande majorité. L'oncle, c'est quand, moi je ne verrais pas en lui le symbole de ce qui attend les Palestiniens, parce que ça serait désespérant. Non. C'est pas parce qu'on résiste qu'on va être brisé. Je pense pas qu'il se situe dans ce cadre-là. Mais on peut se demander si, à la fin, quand le cinéaste nous le montre embrasant l'olivier, l'olivier, c'est un symbole. Ça veut dire qu'il, pour lui, non, ça marche pas. C'est une fausse idée. C'est pas une vraie paix. C'est pas ça. Voilà. J'y verrais plutôt ça. Hein, dans ce... Et alors, c'est quand même pas tous les jours qu'il y a des Palestiniens d'Israël qui se font tirer dessus à balles réelles. C'est pas tous les jours, heureusement, même si on est dans une situation aujourd'hui extrêmement tendue, et y compris dans dans ces villes du nord, là, comme Oum El Fahm et d'autres. Bon. Mais ça rappelle un événement marquant pour les Palestiniens. Le 31 mars, alors bon, je ne sais plus l'année, je crois que c'est 76, mais j'en suis pas sûr, où il y avait une marche pacifique, comme on a vu là dans la forêt, une marche pacifique vers des villages détruits pour recouvrer, pour réarriver à nos anciens villages. Et cette marche a été réprimée, il y a eu 16 morts. Et c'était en 31 mars. Depuis, c'est une date symbolique. Et pour les Palestiniens, c'est ce qu'on appelle la journée de la terre. Notre terre, la terre. L'attachement profond à la terre. Voilà.
La Ramzi, là-haut.
Oui, bonsoir. Et moi, juste pour clarifier, c'est qu'en fait, dans les villages que vous voyez, il y a cette tradition chaque année, plein de Palestiniens originaires de ces villages, ceux qui peuvent et ceux qui sont plutôt qui habitent en Israël, ils vont vers ces villages pour les visiter. Et ça, en fait, ça c'est aussi pour vous informer que la plupart de ces villages qui ont été vidés, massacrés en 48, la plupart ils sont vides. Ça veut dire, en fait, les Israéliens, ils ont chassé les gens qui vivaient dedans, notamment mon grand-père qui habitait à Naani. Et ils ont laissé ces villages. Ils ont poursuivi les Palestiniens réfugiés là où ils sont, en Cisjordanie et à Gaza, pour coloniser. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, ces villages, ils n'ont presque même pas servi à peupler, en fait, les premiers immigrants juifs qui étaient venus en Palestine. Non, en fait, ils sont la majorité encore vides. Et il y a la dernière soulèvement qu'il y a eu il y a quelques années. Aussi, il y a eu une participation naturelle qui n'était pas organisée par toute la population de 48. Il y a eu des manifestations partout dans toute la Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem. Et d'un coup, toutes les Palestiniens de 48, ils ont participé naturellement, puisqu'en fait, c'est des Palestiniens dans la culture, dans la langue, dans l'être humain palestinien. Voilà, donc ils sont sentis concernés. Et immédiatement après cette participation, l'État d'Israël a préparé tout un plan de perturber cette population par ce qu'on appelle le crime, en fait. Et donc depuis plus d'un an, on a plus de 200 jeunes, en fait, qui sont tués. Et soi-disant, Israël, en fait, ils ont le droit d'avoir la sécurité comme à tous les citoyens israéliens, mais il y en a énormément de crimes qui se passent, crimes entre Palestiniens, en fait, et ils sont organisés par les services secrets israéliens pour perturber et déstabiliser la population de 48, en fait. Ils font aucune protection, ils mettent aucun ordre pour arrêter ces crimes. Si je ne me trompe pas, Jean-Paul ou Jean-Yves, on est à plus de 200 jeunes qui étaient morts à cause de ces crimes en 1948.
Oui, moi ce que je voudrais souligner d'abord, effectivement, c'est que le cinéma palestinien est très riche de réalisateurs, de réalisatrices. Et Firas Khoury, on l'a dit tout à l'heure, c'est son premier long métrage. Je pense qu'il a une belle carrière. Je pense qu'il fera encore des films meilleurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce cinéma palestinien, il a largement je crois qu'il faut souligner qu'il a largement évolué. C'est plus un cinéma militant en tant que tel, qui prêche la bonne parole, mais qui s'attache à une certaine réalité. Et qui glisse effectivement, je ne vais pas dire mais des messages au sens politique, mais en tout cas des signes de la réalité. Là, ce qui est intéressant, c'est, de mon point de vue, c'est deux choses. Bon, comme on l'a déjà dit, c'est les Palestiniens de 48, parce que j'ai l'impression que souvent, quand on parle des Palestiniens, on a une espèce de vision un peu monolithique. Alors bon, c'est la Cisjordanie, par exemple. Actuellement, c'est Gaza, bon, c'est qui fait l'actualité, mais il y a beaucoup de Palestiniens, effectivement, d'origine et de plusieurs générations qui sont dans les territoires israéliens. Et il y a aussi beaucoup de Palestiniens qui sont à l'extérieur. Pour pas être trop long, je voudrais presque vous faire une petite publicité pour une émission qui est passée hier à 9h sur France Inter et qui s'appelle Interception et qui s'attachait un peu à, comment dire, à dresser le paysage. Bon, là, en l'occurrence, c'était plutôt vers Haïfa, c'est-à-dire au nord de, en nord de, d'Israël, et dans un coin qui est connu comme, historiquement, avoir été, comment dire, le lieu de fraternité, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, vraiment de liens entre des communautés différentes. Il y avait en particulier beaucoup d'Allemands, etc. Et alors, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on y voit bien, au travers de la jeunesse, ce conflit de génération. Vous avez vu que bon, le jeune, il rentre en conflit avec ses parents. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils lui inculquent? Et je crois que c'est, je me rappelle, Interception, hier, à 9h, France Inter. Eh bien, il parle de coexistence plus ou moins pacifique entre l'oppresseur et l'opprimé. Et donc, vous voyez une génération qui a tendance à pousser en disant « fais pas de vagues ». Et puis, évidemment, une génération qui a besoin de symboles, fossiles, marteaux internationaux et plein de choses qu'on retrouve chez nous, et qui a besoin de se révolter, et c'est bien normal. Qui a beaucoup de mal à trouver sa place. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est effectivement aussi le fait que sous un jour très léger, à savoir des jeunes qui ne sont pas forcément tous très politisés, mais un qui veut séduire une jeune fille, etc., devient, par la force des choses, un petit peu un héros, on entend ce mot-là. Et comment dire, ce livre a des actes qui sont des actes véritablement de résistance. Mais encore une fois, le plus important, je crois, c'est tout ce problème de la vie en commun. Enfin, je ne sais pas, comment on va appeler ça autrement, entre les communautés juives d'Israël et les communautés de nouvelle génération de jeunes Palestiniens. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a le débat sur un État, deux États, comment pourraient-ils vivre ensemble et en paix, etc. Et à mon avis, ce film, il est tout à fait intéressant de ce point de vue-là.
Bonjour à tous. J'ai une question, si vous voulez bien me répondre, M. Dubré. J'aimerais savoir comment évolue en plusieurs générations comme ça, vu que malheureusement, ce conflit dure assez longtemps, l'opinion en France, parce qu'il y a différents aussi moyens de communication, une évolution des moyens de communication avec maintenant Internet qui est un lieu d'information mais aussi de désinformation. Comment est-ce que ça influe sur l'opinion publique et comment celui-ci a évolué sur ces dizaines de dernières années?
Dizaines d'années, je ne sais pas. Pour moi, je ne peux pas vous répondre sur ces une période aussi longue. Mais je pense que pour beaucoup de personnes en France, c'est un conflit qui, je dirais, auquel on évite de penser parce que ça paraît trop compliqué. Et très souvent, les gens qu'on rencontre en ville, quand on fait des points d'information, nous disent « Oh là là, ça dure depuis si longtemps, on n'y arrivera pas, ça ne changera pas, c'est trop compliqué, on n'y comprend plus rien, enfin, etc. » Mais, ceci dit, on s'aperçoit que les jeunes générations sont très demandeuses d'informations. Quand on va au-devant du public, on rencontre beaucoup de jeunes qui nous posent des questions. Alors, évidemment, depuis le 7 octobre, je peux vous dire que ça s'est énormément accéléré. Je pense que de ce drame actuel sort actuellement le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été lire des choses, écouter des choses. Je pense qu'il y a des choses qui avancent pour la connaissance de savoir pourquoi on en arrive là. Hein, mais je pense que l'émotion première a un peu anesthésié tout le monde et un petit peu bloqué. Mais là, maintenant, je pense que beaucoup de gens commence à aller plus loin, regarder plus loin et commence à comprendre un petit peu mieux.
Oui, sur la longue durée, je veux bien dire un mot. Il y a deux choses qui peuvent paraître contradictoires. Sur le fond, En 1967, certains d'entre nous étaient nés. En 1967, je dirais que quasiment 100% de la population française était inconditionnelle d'Israël. C'était un petit État qui était sur le point d'être détruit par ses voisins. On n'en est plus là du tout, c'est évident. On le voit bien, il y a maintenant dans beaucoup de moyens d'information, pas évidemment, par exemple, les grands médias télévisés, c'est pas toujours très sympa, sauf si vous faites une exception pour Arte. C'est moyen. Mais dans les journaux grand public, que ce soit... Alors, il y a des journaux qui sont vraiment engagés, évidemment, L'Humanité, Politis ou autres, mais il y a d'autres journaux comme Le Figaro, Le Monde, Libération, je cite ces trois-là parce que c'est quand même un spectre, qui sont aujourd'hui, ils font des reportages, des analyses impeccables, moi je les signe, la plupart d'entre elles, sans problème. Ça veut dire qu'il y a quand même une conscience qui a progressé. Maintenant, j'ai vu qu'on nous disait que depuis le 7 octobre, il y avait une majorité de Français qui se sentaient proches d'Israël. Je ne sais pas, ça m'étonne un peu, mais bon.
Je pense qu'aussi, il y a de plus en plus, en tout cas, me semble-t-il, des personnes qui comprennent ou qui parlent l'arabe et qui vont chercher des informations sur des sites, effectivement, de langue arabe et qui permet d'approcher un petit peu plus les faits, on va dire, même si on sait qu'on est dans une guerre d'information à l'heure actuelle. Mais si on se contente effectivement de quelques grands médias télévisés chez nous, ça ne peut pas le faire. Mais oui, on a le monde diplomatique, on a un certain nombre aussi de magazines ou de journaux qui nous permettent, si on veut bien aller les chercher, même y compris on a des traductions du seul journal, on va dire, de gauche en Israël qui est Haaretz, et Gideon Levy écrit des articles absolument formidables. Il vient d'écrire hier, je crois le 17, un article pour expliquer pourquoi il n'avait jamais eu autant honte d'être israélien. Il a été très, très attaqué et il explique pourquoi, effectivement. Moi, je vous renvoie à la lecture de cet article, c'est vraiment très frappant, puisqu'il dit en fait qu'il a écouté simplement les discours des présentateurs en Israël, des gens qu'il pensait être simplement de centre, centre droit, ou quelque chose comme ça, en tout cas un peu modéré, et qui maintenant disent que ce sont les victimes, donc les Gazaouis, qui sont responsables de ce qui leur arrive. C'est-à-dire que les victimes sont responsables de leur malheur. Voilà. Et il n'y a plus aucune différenciation. La question de l'humanité n'est plus du tout présente. Ce qui est absolument frappant. Une seconde.
J'avais une question sur le... On voit qu'ils préparent du coup le bac, si je comprends, enfin, dans le film, et leur prof parle en arabe, et c'est tous des arabes. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait concrètement en Israël. Est-ce qu'il y a une ségrégation? Est-ce que les arabes israéliens se mélangent avec les juifs, etc.?
Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des zones qui sont... dites mixtes, même certaines villes, il y a des zones où il y a des populations arabisantes, en tout cas, ou des Palestiniens en Israël, qui peuvent être en nombre plus important. Mais le système d'apartheid, très clairement, entraîne des discriminations majeures, à savoir qu'il y a des quartiers à forte population, majoritairement, voire exclusivement palestiniens, qui n'ont pas les mêmes services publics que les autres parties de villes où ce sont des Israéliens. Par exemple, il y a des écoles où il y a une majorité d'Israéliens qui ont maintenant le droit de refuser l'inscription d'enfants qui sont palestiniens, arabes. Voilà. Il y a des lois. C'est-à-dire que l'apartheid, c'est un système avec des lois qui valident la discrimination. Chez nous, ça nous paraît absolument incroyable, puisqu'on est même condamné quand on fait de la discrimination. Eh bien, là-bas, non. C'est la loi qui l'autorise. Voilà. Et le système d'apartheid, c'est un système, il faut bien comprendre, que c'est pour ça qu'on parle effectivement souvent des Palestiniens en pensant Cisjordanie, Gaza, il ne faut pas oublier Jérusalem-Est, Mais il y a effectivement tous ces Palestiniens qui n'ont pas le même statut qui sont en Israël et qui sont aussi victimes de discrimination, même s'ils sont, ils ont le droit de voter, mais enfin, bon, c'est pas, ça ne suffit pas. Et puis, il y a aussi tous les Palestiniens qui sont exilés dans les pays aux alentours, voire dans le monde entier, hein, qui sont très nombreux, qui sont 7 millions. Et c'est le système d'apartheid qui organise l'éclatement de tout un peuple. Sur place, c'est l'éclatement des statuts, et puis c'est l'éclatement dans le monde entier, puisque de toute façon, tous ceux qui quittent le territoire n'ont plus le droit d'y revenir. Voilà. Oui.
C'est écrit en arabe, c'est une école chrétienne pour les chrétiens, donc c'est pas une école juive. Ça se voyait, c'était écrit en arabe.
Oui, et puis il y avait que des Palestiniens là. Hein. C'est, et la langue, alors, il y a deux. La plupart du temps, la langue c'est l'arabe, hein, mais il y a un peu la schizophrénie là, parce que quand ils doivent aller à l'hôpital, alors à l'hôpital on voit les drapeaux israéliens partout, mais voilà. Sur le lycée aussi, il y a le drapeau israélien qui est...
Et le programme pour le bac, c'est le récit israélien, ça c'est bien clair, sûr. Vous l'avez compris. Oui, bien mais... sûr.
Alors, je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a plus de Français... qui soi-disant, qui sont pour Israël. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il y a les Sayamines. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, les Sayamines. Ah, ben, je vais vous expliquer ça. Alors, ce sont des personnages clés dans des postes clés au niveau de l'État, au niveau des entreprises, partout. Ils sont partout et ils sont rémunérés par Israël. C'est des, y en a qui sont rémunérés par Israël. Par contre, il y en a qui ont des petites faveurs. Et, non, c'est en France, c'est des Français. C'est des Français. En France. C'est les Sayamines. Oui. Donc, il y en a en France, il y en a dans le monde entier. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Belgique, il y en a un peu partout. Et c'est des gens qui font comme pour les trucs de télé, là... Comment ça s'appelle ? Les chaînes d'information, là, BFM, voilà, BFM, etc. Et CNews, etc. Donc, ce genre de télé. Et donc, ce sont... Il y a des Sayamines, c'est les patrons. Le Sayamine, c'est le patron de la chaîne qui décide que son employé qui représente les journaux, etc., dise... voilà ce que veut son patron. Et son patron, il est en mèche avec Israël, avec tous les grands boss israéliens. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on nous matraque avec Israël doit se protéger, Israël doit se protéger. Voilà, tout simplement. Alors, je vous remercie.
On sait effectivement que Israël est championne de communication de ce point de vue-là. La propagande est organisée depuis très longtemps. Ils ont mis des milliards, de toute façon, depuis très longtemps pour pouvoir faire pression, organiser effectivement le lobbying, comme on dit maintenant. Et ils sont très présents partout. Ceci dit, avec des limites, puisqu'on voit bien que l'image d'Israël actuellement est en train de se retourner. C'est même pour ça qu'ils essaient d'accentuer en proposant aux élus de visionner des films ou des choses comme ça, cette propagande trouve aujourd'hui ses limites. Oui, Ramzi.
Oui, c'est juste pour expliquer, c'est pas la Sayamine, c'est Sayanim. Il y a un livre qui s'appelle Le printemps de Sayanim, si vous voulez savoir plus comment ce système fonctionne, parce qu'en fait, vraiment, il faut le lire pour le comprendre. Et c'est écrit par Jacob Cohen, qui était un juif marocain que moi j'ai eu la chance de le connaître et que sa famille se combattait contre le sionisme en fait à un moment ou à un autre et ils ont refusé, ils ont même eu des menaces pour quitter le Maroc vers Israël et dont eux ils veulent les parents en fait tout simplement. Donc il a fait ce livre. Je donne la parole à Sama, qui est plutôt de Jérusalem-Est, qui pourra peut-être répondre à la question des écoles ou comment ça fonctionne déjà chez elle.
Merci, Sama.
Ouais. Comme vous avez entendu, moi, j'étais étudiante à Jérusalem-Est. Maintenant, je suis étudiante à Angers, à l'ESEP. Et je veux expliquer un peu plus sur les systèmes d'éducation en Palestine et en Israël, partout. À Jérusalem, il y avait beaucoup des écoles. Il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques. Et les écoles publiques, c'était sur le système israélien, où les étudiants... ils apprennent de l'histoire, on peut dire, modifiée. Et aussi, ils font après le bac israélien. À Jérusalem aussi, il y a des écoles publiques qui enseignent aussi le système palestinien. Et ce système palestinien, il est aussi un petit peu modifié par l'Israël. À ce moment, tout ce qui est drapeau palestinien sur les bouquins, sur les livres, il essaye de les supprimer ou les modifier pour un autre drapeau. Tout ce qui est des poèmes qui étaient inclus dans le livre d'enseignants d'arabe, il l'enlève parce que c'était très militant. Il contrôle vraiment tout que nos enfants apprennent. Même si c'était dans des écoles palestiniennes ou des écoles israéliennes. Moi, j'avais la chance d'être dans une école privée à Jérusalem, une école lassalienne, et où j'avais catholique aussi, ouais. J'avais fait un bac international qui n'était pas très modifié. On avait l'histoire à côté, on avait des cours de langue hébreu, arabe et aussi français. Et moi j'avais, parce que mes parents ils avaient le moyen de payer cette école, j'avais la chance d'avoir une base de knowledge, de connaissances, voilà. Voilà. C'est...
Merci, oui.
Voilà.
Merci, Sama.
Ouais.
Quelqu'un d'autre? Non, il y avait quelqu'un là? Non, il n'y a pas. Oui, en haut là-bas.
Bonsoir à tous. Déjà, merci pour ce film, pour l'organisation. Moi, je voulais juste rappeler, je vais faire un commentaire qui n'a pas grand lien avec le film, mais rappeler qu'on approche des fêtes de Noël, qu'on va certainement tous aller faire des courses pour organiser ces fêtes avec nos proches, qu'on va certainement faire des cadeaux, et qu'en ce moment, il est plus qu'important de se rappeler que le boycott, c'est un moyen qui fonctionne, qui a fonctionné en Afrique du Sud et qui a montré ses fruits depuis 2 mois. Donc renseignez-vous, si, enfin, peut-être que, enfin, je pense que je prêche des convaincus, mais renseignez-vous quand même sur le mouvement BDS, évitez d'acheter des ordinateurs HP pour Noël, n'allez pas manger chez McDo, évitez Carrefour, Starbucks, pas de chaussures Puma cette année, enfin voilà.
Pas de clémentine israélienne, pas de date israélienne. Ouais,
évidemment.
Puma, on a gagné, oui. Puma se retire.
Voilà. Et de très bonnes fêtes à vous tous.
Bonsoir. Encore une fois, merci pour cette projection. Moi, j'ai été très touchée par le film. Et par la chanson finale, par-dessus le marché, j'ai trouvé ça très fort. Pour répondre à la question sur l'avis des Français sur le conflit, il se trouve que moi, ça va faire bientôt 25 ans que je m'intéresse à cette question. Donc j'y ai passé la moitié de ma vie déjà. J'ai eu la chance de pouvoir aller au Liban. Du coup, après le Liban, je me suis intéressée à la question palestinienne. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'ai cherché à comprendre. Et j'ai été très choquée de ce que j'ai compris. Et donc j'ai voulu voir par moi-même. Et en 99, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Gaza. Et comme je faisais de la photo, j'ai fait des photos, j'ai organisé des expositions, parce que je voulais informer les gens sur ce qui se passait, sur le fait que les accords d'Oslo n'étaient pas respectés. Je suis revenue de là-bas, je suis passée à Jérusalem aussi, je suis revenue très choquée par tout ce que j'avais vu. On était en 99. Hein. La deuxième intifada, moi, je l'avais vue arriver, donc j'étais particulièrement désespérée. Et en fait, ça fait depuis ce temps-là que j'essaye, à mon tout petit niveau, d'alerter. J'avoue que des fois, c'est pas facile. Je me suis pris dans la figure des soupçons d'antisémitisme, mais je m'en fous parce que moi, je sais où j'en suis par rapport à cette question. Donc, je tiens bon. Et puis, voilà, j'ai essayé de travailler avec des agences, enfin, l'association franco-palestinienne aussi à Poitiers. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis assez déprimée parce qu'en fait, depuis 25 ans que j'essaye de participer à alerter les gens à mon tout petit niveau. Alors, heureusement, quand même, je me rends compte que ça commence, mais malheureusement aussi parce que les violences d'Israël sont de pire en pire. J'ai envie de dire heureusement que les Français réagissent, parce que là, je ne sais pas ce qu'il leur faut pour réagir. C'est vraiment assez sidérant. Mais je peux dire que oui, quand même, effectivement, il y a, depuis les débuts où j'ai commencé à essayer d'alerter, par la culture, parce que je trouve que c'est très important. C'est important les manifestations, c'est important les informations politiques, mais ce qui est très important encore plus, ce qui peut aider les Français à prendre conscience, c'est ce genre de film, c'est des concerts avec Al-Kamandjati, par exemple, c'est tout ce qui est culturel pour qu'on se rende compte à quel point, mais putain, c'est un peuple qui n'a pas le droit de vivre comme les autres, qui n'a pas le droit d'avoir de culture, on détruit des théâtres, on massacre des artistes, et c'est seulement, je trouve que c'est surtout en allant vers la culture, en montrant des films, en montrant des musiciens qui font un travail formidable, ça montre pardon, c'est horrible à dire, mais on a l'impression qu'il faut rappeler l'humanité des Palestiniens, et c'est pas normal. Et c'est sur ce point-là qu'il faut vraiment travailler. Et vraiment, merci de montrer ce genre de film, parce que les campagnes de boycott, c'est important, il faut les faire, les manifs, il faut les faire, mais il faut aussi parler de la culture pour montrer à quel point ce peuple est un peuple entre guillemets comme les autres, et qu'il a le droit d'exister, et que ce qui se passe, c'est juste insupportable. Moi, ça fait 25 ans que j'ai mis le nez dedans, et j'avoue que là, je me mets à la place des Palestiniens, ça doit être encore pire. Mais en tant que Française citoyenne, je trouve ça insupportable et je continuerai à faire ce que je peux. Et je vous invite à en faire autant, parce que des fois, c'est juste avec des discussions avec des amis, quand ils voient que d'habitude on dit rien et que d'un seul coup ils voient qu'on s'enflamme sur une question et qu'on est en colère, là d'un seul coup les gens se disent ah bah oui, il y a peut-être un truc là. Si elle défend ce point de vue, c'est que peut-être il y a de bonnes raisons d'être en colère, en fait. Voilà, merci, c'était un témoignage sur mon expérience de Française qui est dedans.
Juste une précision. Allez écouter l'interview de Elias Sambar sur France Culture, je crois. Non, France Inter, en début de semaine dernière. Alors, autant pour moi, c'est vendredi, qui est effectivement lumineux, moi je le dirais comme ça. Et en particulier quand on lui a demandé de s'exprimer sur comment vous qualifiez l'action du Hamas, etc. Et qui a répondu, moi je trouve, de façon splendide, en disant « Mais je n'ai pas besoin de me justifier, de dire que je ne suis pas antisémite, etc. Ma vie en témoigne. » Et voilà, et il faut arrêter de vouloir toujours renvoyer, hein, qui est une façon de fermer les conversations. Mais je vous conseille de l'écouter en entier, c'est vraiment formidable. Oui, excusez-moi.
Non, c'était simplement une question de quelle confession religieuse sont ces jeunes palestiniens en Israël. Alors peut-être n'ont-ils pas de religion, je ne sais pas, mais ils n'ont aucun signe religieux en tout cas.
Je crois qu'ils sont comme des jeunes, hein, qui sont pas forcément... Là, donc effectivement, la précision, c'est une école chrétienne. Voilà. Donc on peut imaginer que les familles qui ont inscrit leurs enfants sont des familles plutôt chrétiennes, mais peut-être pas que, puisqu'ils doivent accueillir aussi probablement... Voilà, les écoles ne sont pas forcément uniquement confessionnelles. Elles accueillent très largement, je pense. Hein. C'est pas... Ah là, tu peux... Voilà. Voilà, comme en France, on a des écoles dites privées, catholiques, qui accueillent... Voilà. Alors, peut-être que la religion, on a l'impression que ça a un impact, effectivement, sur ce qui s'y passe, parce qu'on est renvoyé à ça tout le temps. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège, justement. Hein. Ce qui s'y passe, ce n'est pas des histoires de conflits de religion. Hein. C'est des histoires politiques. Et économiques, parce que sociales.
C'est dans les films, ils disent qu'il n'y a personne, il n'y a aucun juif ici à l'école pour mettre le drapeau. Il y avait un, ça fait 2 ans qu'il est parti, donc il ne trouve personne pour changer le drapeau israélien, pour dire qu'il n'y a pas de juif dans cette école, que c'était clair tout le début.
De fait, on voit bien qu'il y a des zones où pratiquement majoritairement il y a des Palestiniens qui vivent. Et que les gens de confession juive ont tendance effectivement à rester entre eux. Ça, c'est clair, puisque c'est comme ça que c'est poussé du côté de l'État. L'État, ayant voté la loi État-nation 2018 d'un État juif, ils veulent se séparer des autres. Hein. Donc c'est eux qui veulent plutôt être entre eux, alors que le reste de la société, que ce soit chrétien, musulman, etc., ils ne demandent pas ça. Hein. Ils ne sont pas sur cette ligne-là. Oui. Alors, il y avait qui
Pierre-Joël, non, c'est... Non, non. Ce sera rapide. C'est juste un petit argument pour répondre aux accusations d'antisémitisme qui sont envoyées assez régulièrement à des gens qui se disent antisionistes. Vous pouvez lire, c'est une histoire connue, hein, tout le monde connaît le célèbre violoniste Yehudi Menuhin. Son père s'appelait Moshe Menuhin. Il a été, jusqu'à la fin de sa vie, il a dépassé 75 ans, il a été un activiste anti-sioniste extrêmement virulent, puisqu'il a accusé l'État d'Israël de fascisme. Et on peut difficilement appeler quelqu'un qui s'appelle Moïse, Moshe, et qui donne à son fils le nom de Yehudi, qui veut dire en arabe et en hébreu juif, le dire antisémite, c'est quand même violent.
Écoutez ce que dit aussi Ronnie Broman.
Oui, oui, j'avais une question. C'est, moi, ce qui m'a un peu choqué aussi, c'est quand même qu'il y a des tirs à balles réelles sur des manifestants. Est-ce que c'est... Enfin, en Israël, parce qu'on sait que... Il tue beaucoup de monde à Gaza, quoi, mais et en Cisjordanie. Mais est-ce qu'en Israël, ça arrive régulièrement? Est-ce que c'est réaliste, ces tirs à balles réelles contre des manifestants pacifiques sur des citoyens israéliens, quoi?
Alors, Ramzi dit oui. La police israélienne affirme utiliser souvent des balles dites à protection de caoutchouc, mais qui, en fait... sont extrêmement violentes, extrêmement mutilantes, et puis létales de toute façon, effectivement, puisqu'en fait c'est juste un petit arrobage de caoutchouc, c'est pas une balle en caoutchouc, c'est métallique avec un petit arrobage par-dessus. On voit bien chez nous, quand il y a eu l'usage des LBD, ce que ça peut donner, des tirs tendus et à proximité. Mais là, je pense qu'effectivement, on a très souvent des accidents, enfin, en tout cas, des jeunes qui sont atteints. Mais les balles réelles, oui, je pense qu'ils les utilisent aussi dans certaines circonstances. Ouais. Alors, ça, c'est à Gaza. C'était les matchs du retour pour s'approcher de la frontière de Gaza. Et là, c'était carrément des snipers qui tiraient avec des balles explosives. Et c'était intentionnel de faire éclater les genoux des jeunes. Alors, il y a eu beaucoup de morts, de toute façon, parce qu'ils étaient quand même à 300 mètres. Bon, pour des snipers, c'est peut-être pas grand-chose, bien équipés. Mais ils ont mutilé énormément, en particulier parce que c'était des jeunes. Mais là, oui, effectivement, c'était volontaire et c'était pour détruire. Et un maximum faire le maximum de dégâts. Oui, Bernard.
Pour revenir deux minutes sur la question de l'antisémitisme, on m'a raconté il n'y a pas très longtemps une blague juive antisioniste. Ça existe, les juifs antisionistes. Et ça consiste à dire, longtemps l'antisémitisme a désigné ceux qui n'aimaient pas les juifs. De plus en plus aujourd'hui, il désigne ceux que les juifs n'aiment pas. C'est tout à fait adapté à la situation, me semble-t-il. Et pour revenir à l'histoire du vieux monsieur qui changeait le drapeau et qui est parti, je rappelle que Coury en fait presque un gag en disant qu'il a été obligé de déménager parce qu'il avait voulu louer sa maison à des Arabes. Et ça permet de dire une chose qui est absolument monstrueuse sur la discrimination en Israël, qui est qu'on peut très calmement refuser une location ou interdire à des Arabes de s'installer dans un quartier ou d'acheter ou de louer une maison. C'est quand même complètement ahurissant, en tout cas du point de vue de la culture française.
Pour un Israélien qui voudrait vendre son bien, sa maison, eh bien, il n'a pas le droit de le faire à un acheteur qui serait arabe. C'est interdit. Voilà.
Oui, donc d'abord, je voudrais dire que dans le film, il y a une parole qui m'a vraiment fait plaisir. C'est un jeune qui dit, mon grand-père disait, quand tu hisses le drapeau, c'est la liberté, l'indépendance, je crois, et le brûler, c'est la liberté. Quand tu peux brûler ton drapeau, c'est très beau, ça veut dire, c'est l'humanité. Et maintenant, je voudrais quand même, parce que ça me tourmente déjà depuis longtemps, faire un peu parler de mes états d'âme, mais on va croire que je suis pro-palestinien. Je vous dis ce que... Voilà. Dernièrement, un enterrement, on montrait des photos de famille, c'est souvent. Hein. Et ils nous montrent une photo de famille que j'avais vue. C'est pas la première fois que je l'avais vue. Cette photo, j'ai vu d'abord quand elle a été tirée, quand j'avais 8 ans. Je l'ai vue après. Et là, sur cette photo de famille qui représentait le retour des prisonniers, c'est-à-dire plusieurs familles, en fait. J'avais deux oncles qui avaient été prisonniers. Il y en avait peut-être un troisième, je ne sais pas. En France, oui. Le retour des prisonniers d'Allemagne. Hein. Et donc, sur cette photo, ma sœur me fait remarquer, et là, il y a une petite fille qui se cache. Effectivement, sur la photo, sur l'angle, il y a une petite fille à qui on a demandé de se cacher. Et elle est très curieuse, elle a 6 ans, et elle regarde, on la voit sur la photo. Cette photo, cette image, cette petite fille, moi j'avais 8 ans, j'ai joué avec, hein, et c'était une juive. Son père a été arrêté parce qu'il travaillait chez un oncle. Personne n'a réagi dans la famille. Et longtemps après, je me suis posé des questions. Et bien sûr, personne n'en a parlé dans la famille. Et imaginez l'émotion quand même. Cette petite fille-là, qui a mon âge à peu près, je l'ai ignorée, je n'ai jamais vu sur cette photo. Et donc, c'est pour dire tout à l'heure qu'on était pro-israélien. On a une blessure. On a ignoré la Shoah. Moi, après, je me souviens d'avoir été très frappé par le film Exodus, que j'ai pas pu voir parce que je n'avais pas les moyens de me payer le cinéma à l'époque. Mais je l'ai vu un autre film aux actualités. Il y a eu aussi le massacre s'attaquer au sport, les Jeux de Munich. Tout ça, ça nous a profondément blessés. Hein. C'est pour dire. Et donc, oui, je suis peut-être trop bavard. Bon, ce que je veux quand même dire, que... Oui. Bon, ben d'accord. Bon. Non, simplement que par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien, moi, je le ressens aussi comme une blessure, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement, le jour même, il aurait dû y avoir quelque chose, quand même. C'est inhumain, ça. Et il y a aussi, excusez-moi, je termine, je ne peux pas supporter les otages. On m'avait demandé de lire un texte sur les otages, je dis non, je ne peux pas, c'est quelque chose de complètement inhumain. De marchander des hommes comme si c'était un marchand des maquignons, des marchands de bestiaux, on échange contre assurance. Je ne peux pas supporter ça. Et donc, dans la... Oui, je termine.
Bon, Jacques,
c'est toujours le petit... Oui, mais c'est toujours le David qui gagne contre Goliath. C'est-à-dire que le petit... tout le monde prend parti dans le monde entier pour le petit. Je ne suis pas pro-Israël.
Alors,
non, mais je veux dire que... Si, mais je ne suis pas le seul. J'en ai parlé avec d'autres. Ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi. Que le Hamas se libérerait les Palestiniens, les otages.
Bon, Jacques, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît, oui. Jacques.
Simplement.
Oui, on va arrêter là-dessus. Simplement, je voudrais aussi dire que le directeur du musée à Jérusalem sur l'Holocauste, la Shoah, a dit lui-même que les Israéliens... aujourd'hui, se sont déshonorés à évoquer un lien avec la Shoah, avec ce qui se passe en ce moment et avec même l'attaque du Hamas, que c'était déshonorant et qu'il ne fallait pas mélanger les choses. Donc on comporte effectivement en Europe une culpabilité pour ce qui s'est passé, c'est indéniable, mais il faut garder l'esprit clair et on ne peut pas tout rattacher effectivement à ce qui s'est passé il y a plus de 75 ans. Alors, puisque vous partez, je voulais juste vous signaler que nous avons une manifestation samedi à 15h au même endroit que samedi dernier. À 15h, place Mondain Champlouineau, comme samedi dernier. Nous allumerons des bougies, nous aurons des grandes pancartes pour dire cessez le feu. Il y aura une lettre par personne. Nous essaierons de faire une chaîne humaine. Bon, on le fera sur la place. Et on aura des textes à lire aussi. Voilà. Et puis, si vous voulez être dans l'action, venez nous rejoindre à l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité. On a besoin de tout le monde, de bras, de votre énergie. Voilà. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir.